Il est 6h22. Bonjour Nicolas Hénin.
Bonjour.
Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien. Vous avez été dans le passé l'un de nos correspondants à Bagdad, retenu otage en Syrie pendant 10 mois, il y a un peu plus de 3 ans. Vous êtes aujourd'hui président de l'Institut Action Résilience, auteur de « Comprendre le terrorisme » aux éditions Fayard. Nicolas Hénin, on a appris cette semaine qu'au moins 6 djihadistes français engagés auprès de Daesh avaient été arrêtés par les combattants kurdes en Syrie. Et parmi eux, parmi ces Français, un certain Thomas Barnouin. Est-ce que c'est un gros poisson ?
Ah ben c'est plus qu'un gros poisson, c'est un très gros poisson, c'est l'une des principales figures du djihadisme français au sein de du groupe État islamique. C'est pas forcément celui qui a le plus de sang sur les mains, mais c'est l'une des figures parmi les plus visibles et notamment c'est l'une des figures les plus actives dans ce que l'on appelle le djihad médiatique, qui est extrêmement important puisque c'est la phase de base qui va permettre le recrutement. Donc on considère en terrorisme que ce n'est pas forcément celui qui a le plus de sang sur les mains qui est le plus coupable, mais comme le terrorisme tourne énormément autour du recrutement, c'est l'activité de propagande est un crime particulièrement grave.
Il était lié aux attentats de 2015.
Il était lié à toute la mouvance, au cœur de ceux qui ont commis les attentats. Il était très certainement informé des attentats et il était en connexion avec les frères Klein qui ont produit l'audio de revendication de ces attentats. Il était clairement dans ce petit noyau qui a conçu notamment ces attentats, oui.
Ces djihadistes français arrêtés dans la zone irako-syrienne, que vont-ils devenir ? Qui va les questionner ? Qui va les juger ? Est-ce que c'est les Kurdes, les Irakiens, la France ?
Dans un premier temps, c'est ceux qui les arrêtent qui les questionnent, ou en tout cas qui peuvent les questionner. On a 3 acteurs principaux, enfin, même plus, on a en gros les Irakiens, sachant que les Irakiens eux-mêmes sont divisés entre l'armée irakienne régulière et puis les Peshmerga, les combattants du Kurdistan irakien au nord. Et puis en Syrie, on a d'une part l'armée du régime, et puis on a au moins 2 groupes non étatiques qui ont progressé contre l'EI au nord. D'une part, les Kurdes syriens, et puis aussi une coalition menée par la Turquie, qui eux aussi détiennent des djihadistes. On a donc une myriade d'acteurs avec lesquels aucun accord d'extradition n'a été conclu. On ne peut pas obtenir d'extradition depuis la Syrie puisqu'on n'a plus d'ambassade. On ne peut pas obtenir d'extradition depuis l'Irak puisqu'il n'y a pas d'accord d'extradition. Et puis par ailleurs, on se retrouve face à des acteurs qui sont des groupes armés non étatiques qui n'ont pas d'existence légale. On se retrouve donc dans une situation qui est compliquée. Bon, on a en tout cas un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans un premier temps avec lesquels on a des rapports plus ou moins bons. On a des rapports exécrables avec le régime de Damas, mais on a des rapports qui sont plutôt bons avec la plupart des autres acteurs. Nos relations avec Bagdad sont fluctuantes, mais bon,
quand il s'agit
de la sécurité, on trouve toujours des arrangements. Pareil avec les Kurdes.
Ça veut dire, Nicolas Hénin, que les services de renseignement français vont pouvoir, par exemple, interroger ces djihadistes ?
C'est même potentiellement déjà fait ou en cours.
Nicolas Hénin, toutes ces arrestations sont-elles le reflet d'une année marquée par le repli, pour ne pas dire la débâcle de Daesh dans la zone irako-syrienne, hein, la chute de Mossoul et de Raqqa ont marqué cette année 2017 ?
Ça, évidemment. En tout cas, territorialement, il suffit de regarder une carte. Hein. On a bien vu en 2013-2014 comment la tache noire sur la carte qui représentait dans cette région l'extension territoriale, le contrôle territorial de l'EI progressait. à une vitesse parfois fulgurante. La recrue a été, la décrue a été plus plus lente, plus difficile souvent. Mais voilà, en 2017, officiellement, ça s'est effondré. Il n'y a plus que quelques toutes petites zones largement désertiques, ou alors vraiment des petits villages qui sont encore tenus par l'organisation terroriste. Aujourd'hui, Daesh est quasiment territorialement défait. Est-ce à dire que l'organisation terroriste est défaite en soi? C'est un petit peu ambitieux de le dire. D'une part parce qu'il y a, elle a réussi à créer un certain nombre de filiales à l'étranger ou à obtenir l'allégeance de plusieurs groupes terroristes qui étaient déjà actifs à l'étranger mais qui l'ont rejoint, d'une part. Et puis d'autre part, il reste un très fort ressentiment dans les esprits des populations, en particulier arabes sunnites sur place, qui ne voient toujours pas de perspective politique, que ce soit en Irak ou en Syrie, qui dans les deux pays se considèrent marginalisés, voire brimés, et seraient prêtes à rejoindre n'importe quel groupe, qu'il soit terroriste ou pas, mais militant, qui viendrait leur promettre des lendemains meilleurs.
Il va y avoir des suites. On a beaucoup parlé aussi ces derniers jours du retour en France des enfants français nés ou qui ont grandi dans le califat de Daesh. Nicolas Hénin, est-ce qu'on peut imaginer ce que ces enfants ont vu et vécu? Quelles sont les conséquences sur eux?
Mais en fait, la conséquence qu'ont tout le monde, qu'ont tous les combattants de l'œil, tous les gens qui ont vécu sur une zone de combat, sont traumatisés. Et c'est ça la difficulté aussi de la prise en charge judiciaire. On parle parfois de différencier entre les personnes qu'il faudrait judiciariser et les personnes pour lesquelles il faudrait un soutien psychologique. De facto, tout le monde passera par les deux côtés. Les enfants, bien sûr, seront judiciarisés d'une façon positive. Les mesures judiciaires qui seront prises à leur encontre sont des mesures de protection, des mesures de séparation de leurs parents, des mesures de mise à l'abri dans des familles d'accueil. Mais il y aura un processus judiciaire pour tout le monde.
Il faudra
un processus psychologique pour tout le monde. Parce que même le plus méchant des détenus, le plus méchant des terroristes, si vous le mettez dans une prison et qu'il est juste
sans suivi,
qu'il continue de souffrir de toutes les névroses suite à ce qu'il a vécu là-bas, eh bien il va vous retourner à votre prison.
Merci.
Et pour lui aussi, il faudra un traitement qui soit un traitement d'ordre psychosocial.
Nicolas Hénin, merci beaucoup. Le sujet est très vaste. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur France Inter ce matin. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Action Résilience, auteur de Comprendre le terrorisme aux éditions Fayard. Bonne journée à vous.